Un bon boulot, témoignages et discussions sur les grandeurs et les misères du travail. Selon Christophe Dejour, médecin, le travail est une promesse d'accomplissement de soi, souvent non tenue. Comment faire de son travail à la fois un plaisir, une source de reconnaissance et une source de revenus? Salariés, entrepreneurs, artistes, les parcours sont multiples et les trajectoires singulières, hybrides, mais toujours riches d'enseignements. Nous parlons métier, épanouissement au travail, nous cherchons aussi à comprendre comment un bon boulot pourrait devenir un sale boulot. Nicolas, 50 ans, un enfant et musicien, milite au sein de l'association Survie contre le néocolonialisme en Afrique et anime une émission de Radio U. Après avoir exercé plusieurs métiers, il est maintenant porteur chauffeur funéraire, 35 heures par semaine, pour une grande entreprise du secteur. C'est certes un travail alimentaire, mais aussi utile. Et ce travail lui laisse un peu de temps et d'énergie pour, peut-être pas suffisamment, bon, pour cette autre activité créatrice. Bonjour Nicolas.
Bonjour Hervé, merci pour ma l'invitation à cette émission.
Bah, écoute, c'est un plaisir. On va découvrir donc ton métier. Est-ce que tu pourrais le présenter déjà en quelques mots? Donc, porteur-chauffeur funéraire.
Alors, je vais distinguer deux phases qui sont le cœur de mon poste, de mon travail. Il y a une première phase, on peut dire que c'est ambulancier, où avec un collègue, on est toujours deux, nous allons chercher les personnes qui viennent de décéder. Alors, soit à la suite d'un appel sur un numéro d'urgence de l'entreprise, ils appellent ce numéro-là, qui les met en lien avec un conseiller ou une conseillère, et qui après va nous appeler, nous, pour aller faire le transport. Soit c'est des gens, une famille dont le défunt, la défunte, avait un contrat obsèque avec l'entreprise, et ils vont faire appel directement à nos services.
Oui, on précise que les pompes funèbres ont le monopole hein, pour le transport. Enfin, c'est un monopole, c'est-à-dire qu'ils sont c'est obligatoire en même temps, c'est une mission.
Les pompes funèbres sont les seules habilitées à faire les transports de cadavres, de personnes décédées, c'est les seules. Qui peuvent prendre un corps, le déplacer jusqu'à une morgue. Donc ça, c'est la première phase, on va dire, ambulancier. Et la deuxième phase, deuxième dimension, c'est vraiment le métier de porteur-chauffeur où... lors de la journée des obsèques, on va dire, nous sommes présents. On est toujours plusieurs. Hein, en général, on est quatre porteurs-chauffeurs à intervenir lors des obsèques. Et si vous voulez, le rituel habituel, c'est la personne a été présentée dans un salon. Nous, on arrive pour la mise en bière, c'est-à-dire on met la personne dans le cercueil. Ça se fait en dehors de la vue des proches. Ensuite, il y a encore un temps de recueillement. Les proches peuvent voir la personne dans le cercueil. Ensuite, nous, on réintervient pour fermer le cercueil, mettre le capot sur le cercueil. Et ensuite, on part en convoi funéraire pour la cérémonie, qui soit une cérémonie religieuse à l'église, il y en a beaucoup en Bretagne, soit une cérémonie civile qui peut se passer un peu où on veut, on y reviendra. En général, ça se passe au crématorium, ici, à Brest, pour les cérémonies civiles, mais on peut les organiser où on veut. Suite à la cérémonie, bah, y a deux sortes de disparition du corps. C'est soit l'inhumation, l'enterrement, soit la crémation. Et moi, avec mes collègues, si c'est une inhumation, bah, on va mettre le cercueil dans la fosse, dans le caveau. Voilà.
C'est d'accord. Ça, ouais. C'est bon, ça, on va y revenir, hein, surtout parce que c'est de loin, ça fait un drôle de métier, s'occuper des morts. Mais avant d'arriver sur ce boulot, parce que tu en as fait beaucoup de boulot, plusieurs métiers. Donc on va les passer en revue pour voir comment tu pilotes, comment ça s'est passé dans ton rapport à l'argent, au travail alimentaire, au travail passion aussi, enfin un travail qu'on a vraiment choisi. Et on va commencer par peut-être les premiers contacts ou les premiers points de vue sur le boulot quand on a déjà dans l'orientation à 16 ans, on nous demande ce qu'on veut faire. Et puis après par exemple, si on veut aller en fac, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Comment ça se passe dans la tête de quelqu'un de 16 ans, de 18 ans, de 20 ans, la question du travail? Alors, déjà peut-être la première question sur l'orientation, comment ça s'est passé
Alors l'orientation, alors moi j'ai un vague souvenir au lycée, je pense que je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire comme métier, tout ça. J'ai un souvenir là quand tu évoques ce terme d'orientation, d'être passé dans un espèce de, comment on appelle ça, avec un conseiller d'orientation à discuter sur...
Oui, on a tous passé par là. Ouais.
Sur ce que je voulais faire, à faire des espèces d'activités pour savoir ce qui m'intéressait. Je ne me souviens pas ce que ça va être donné, mais en tout cas, moi, j'étais plus... Les lycées, on va dire, au bac, jusqu'au bac, ce qui m'intéressait, c'était quoi ? La musique,
voilà. D'accord, ouais. Mais tu te faisais pas...
Regarder les papillons, j'étais très très contemplatif comme jeune homme. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire et de où j'allais aller en termes d'activité, j'ai vraiment aucune idée.
Et est-ce que musicien, c'était un boulot envisageable ?
Non, j'y pensais pas. Je me suis mis à faire de la musique, de la guitare à 15 ans. Voilà. C'est un passe-temps qui m'amusait. C'est tout. Ça n'allait pas plus loin.
D'accord, oui. Et donc, à un moment, quand même, va falloir travailler. À la sortie du bac, tu fais quoi à ce moment-là, hein?
Alors, mes premières expériences de travail salarié où je suis payé, c'est à ce moment-là. Hein, c'est à 17 ans.
Dès 17 ans.
Ouais, c'est à 17 ans.
T'es encore au lycée, là,
ouais, dernière année de lycée. Je trouve un petit boulot grâce à mon père. Je travaille au ministère du Travail à Paris, parce que lui, il travaillait là-bas. Lui, il était dans la fonction publique du travail. Et bon, bref, j'arrive à avoir un boulot là-dedans, un boulot administratif où j'ai travaillé 2 mois, très, très pénible, aucun intérêt à ce que
c'est
je faisais.
C'est quoi le...
Je rentrais des chiffres dans un ordinateur.
Ah, tu fais de la saisie
saisie de...
Aucun sens.
Aucun sens. Mais bon, c'était ma première expérience. J'avais 17 ans. J'ai gagné, on va dire à l'époque, je ne sais plus, j'ai gagné 3000 balles, 3000 euros, on va dire, si on convertit...
C'est beaucoup. Oh, mais non, sur 2 mois, c'est... Ouais. Enfin, c'est pas mal, c'était plus que le SMIC. Hein.
Pour moi, c'est énorme, en fait. J'ai mis autant d'argent dans... voilà, c'est formidable. Je commence mes études... Après,
ouais, ouais.
Et voilà, alors après...
Est-ce que ça t'a donné une idée du travail en te
non.
disant c'est une horreur, vaut mieux l'éviter, ou alors ça rapporte, vaut mieux, ou ça prend du temps, vaut mieux, non, rien, il ne s'est rien passé de particulier?
Alors, en fait, si, de façon plus générale, je pense que mon rapport au travail quand je suis adolescent ou quand je commence ma vie d'adulte est un rapport assez distant. Où ma nature, mon tempérament fait que rien faire et regarder les nuages ou gratter ma guitare, ça me convient très bien. Et après, d'un autre côté, j'ai grandi, j'ai baigné dans un univers familial très politisé, très politique, très engagé à gauche. Donc j'ai toujours baigné dans un univers où j'entendais l'exploitation capitaliste et en même temps le travail comme source d'épanouissement quand on l'a choisi et quand on s'organise. Bon bref, tout ça, j'ai baigné là-dedans. Donc forcément, en fait, ça a dû jouer. Et ça,
oui,
ça a joué dans ma construction.
Il y a aussi ton souci d'autonomie. Tu ne voulais pas forcément travailler, mais tu ne voulais pas non plus dépendre de tes parents.
Ouais. Et ça s'est fait petit à petit, hein, après tout ça.
Mais à un moment, il faut s'inscrire il ne faut pas forcément s'inscrire, mais il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision, s'orienter soit à aller bosser, soit se débrouiller sans, mais ce n'est pas facile, soit faire des études pour peut-être un métier, ou au moins pour faire quelque chose, je ne sais pas.
Ouais. Alors moi, je choisis de faire des études parce que j'ai la possibilité, j'ai le soutien de mes parents, le soutien financier, soutien affectif, social, qui me permettent de faire des études, contrairement à plein de gens. Hein.
Oui.
C'est un privilège. J'ai pas, alors, je fais des petits boulots l'été ou pendant les vacances pour aussi m'aider à financer mes études et à vivre, voilà, à pouvoir faire des achats que je peux, quoi. Mais du coup, toutes mes années de fac, on va dire, je fais des études de sociologie par pur intérêt intellectuel et
D'accord, aucune idée de boulot là-dedans.
non, aucune idée de dessin professionnel qui s'en suivrait. Je n'y pense pas du tout, je n'y pense pas.
Ah ouais, ça c'est. Mais tu vas quand même jusqu'à la maîtrise.
Je vais quand même jusqu'à la maîtrise et en fait c'est à ce moment-là que là vraiment le problème de gagner sa vie va devenir concret puisque j'arrive à 20, 24, 25 ans,
Oui.
mes parents me disent c'est terminé, tu te démerdes. Voilà. Et
Et
du coup,
donc alors, à la sortie de la fac, avec une maîtrise
eh
sans
ben,
aucun. Parce que sociologie, en plus, c'est
c'est pas évident.
pas évident. Enfin, si tu fais une thèse, tu peux être prof,
Voilà.
mais d'abord, les postes sont très, très, très rares.
Bah là, je fais un choix d'arrêter les études universitaires. Je renonce à faire une thèse, malgré qu'on m'ait beaucoup poussé. Ma
Ah oui?
professeure qui m'avait suivi me dit, vas-y, fais une thèse. Je dis non. Mais je dis non parce que, en fait, à ce moment-là, c'est assez simple pour moi de dire non. Je veux arrêter ça, quoi. Donc, je vais ailleurs.
D'accord. Et tu vas
Et
où?
ben, il faut que je gagne ma vie, mais j'ai pas envie de bosser. Donc, je pars au Portugal dans une espèce de service civique. C'est pas vraiment ça, mais c'est un
Ah
truc
oui.
comme ça. Et en fait, qui me permet de bosser loin dans un pays où il fait beau. C'était ça ma.
Tu parles portugais?
Je parle pas portugais, j'apprends avant, j'apprends sur le tas, c'est un peu galère. Mais mon idée, c'était de partir quelque part, d'avoir une expérience professionnelle tout en découvrant autre chose.
Mais en
Donc,
prenant n'importe quelle expérience professionnelle.
non, pas n'importe laquelle, choisis. Je vais travailler dans une association qui s'occupe d'enfants défavorisés et qui se bat pour les droits.
D'accord.
Les droits humains vitaux au Portugal. Donc, je fais un choix conscient à ce moment-là d'aller bosser pour eux. Mais en fait, l'idée que j'ai derrière la tête, c'est d'une part, ça repousse un peu mon entrée dans la vie professionnelle en France. Ça me fait vivre une super expérience et on verra après. En gros, c'est ça.
Ok. Mais là, tu es encore ouais, très jeune. Enfin, tu as
J'ai 25 ans.
à 25 ans.
J'ai
Ouais, bon,
25-26
ça
ans.
commence à. Ouais, les questions. Oui, ça commence à faire.
Je rentre de cette expérience, de ces quelques mois au Portugal,
Donc,
et
tu reviens en
là,
France, ouais.
je retourne en France, et là, bah, il faut que je trouve du boulot, là, hein, concrètement, voilà. Et du coup, c'est parti, je bosse, je trouve un boulot en septembre 2001, comme aide éducateur dans une halte-garderie dans le 12e arrondissement de Paris, dans un centre social.
Il y a un lien avec ce que tu as fait au
Il
Portugal?
y a un lien avec ce que j'ai fait au Portugal. Il y a un lien avec mes études aussi. On est toujours dans le domaine social, voir comment les gens se démerdent, en gros, c'est ça qui m'intéresse. Hein. Et là, première expérience vraiment professionnelle. Hein. Super expérience dans un centre social, dans un quartier de Paris populaire, vachement enrichissant pour moi.
Ok.
Voilà.
Et dans ce métier-là, tu découvres un métier, il te plaît, il est utile, il a à voir avec certaines de tes préoccupations.
Ouais.
Et là, il y a deux possibilités, soit de le maintenir tel que, soit d'imaginer quelque chose dans ce métier, dans ce secteur où en reprenant des études, ou en faisant quelque chose, je ne sais pas, monter en compétences et en responsabilité, ou quoi, donc comment ça se passe?
Bah, moi, pendant longtemps, en fait, quoi, pendant longtemps, ouais. Le boulot, j'avais un rapport très très lâche quoi, très relâché. Donc en fait, je travaille un an dans ce centre social, super expérience. Et en fait, j'arrête parce que avec un copain, on a décidé de se barrer en voyage. Et du coup, je
D'accord.
me barre en voyage.
En fait, tu te vois saisonnier du travail un peu, j'ai
À
l'impression.
cette
Ouais.
époque-là, ouais.
C'est-à-dire, il y a la saison, on bosse, les cales sont pleines, on repart, on voyage.
Grosso modo, je l'intellectualise pas du tout. Hein.
Ouais, non, j'imagine.
Mais
ouais.
Je le, oui,
c'est spontanément, comme... ouais, t'as pas le sens de la prévision. Là.
Non, pas du tout, okay. Pas du tout. Donc, je pars en voyage en Amérique centrale avec un copain.
Ah, oui.
On a un projet de vague de faire une ferme écolo, etc.
Ah, y a un projet boulot quand même.
Il y a un projet boulot, surtout plus de mon copain. Moi, je l'accompagne là-dedans, mais
de si... faire une ferme, de travailler dans une ferme.
Exactement, ouais.
Ouais.
De monter une ferme.
C'est quel pays ?
Nicaragua.
Ah oui, c'est le pays le plus tranquille là-bas. Enfin bon, parce que le Mexique, c'est ouais. Dur. Colombie, c'est affreux.
Oui, ça va, tranquille d'une certaine manière.
Nicaragua était plus tranquille, ouais. Donc, et vous arrivez dans une ferme
Non, on arrive chez la mère du pote de mon pote qui nous accueille. Bon, en fait, on va rester combien de temps au Nicaragua? On va rester, grosso modo, on va rester 8-9 mois. À peu près.
Tu parles espagnol aussi ?
Je parle espagnol. Super expérience hein, de découvrir un nouveau continent.
Oui, oui. C'est un...
Une histoire, une culture, des gens, la misère, bon, plein de choses. Bon, bah, en fait, grosso modo, je vais quand même faire pas mal la fête, à ouais. Profiter. Et,
tu joues de la musique là-bas ?
J'en ai fait, ouais. Ouais, ouais, un peu.
D'accord.
Alors, on a cette idée de trouver un lieu, un terrain pour faire une ferme. On arrive à acheter un terrain. Difficile, ça prend du temps, mais on le fait.
T'achètes un terrain là-bas ?
J'achète un terrain là-bas avec mon pote.
Là, ça, c'est un projet, c'est solide. Ça.
Ah ouais, ouais, ouais. Bon, après, l'histoire a mal fini, mais bon, c'est pas grave. Du coup, en fait, l'idée, après, c'était de revenir en France, de refaire de la thune. Pour repartir vraiment
ouais,
monter notre projet.
Quoi. Oui, d'accord, ok.
Le retour en France est un peu compliqué parce que on a une petite galère matérielle juste avant de rentrer. Donc, je fais appel à mon père pour m'aider.
Ah.
Il m'aide à payer le billet retour. Il m'en voudra toute sa vie. C'est une autre histoire. On s'en fiche.
Ah, t'as même pas de quoi rentrer chez toi.
Non,
ouais, ouais,
j'ai pas assez pour. Il me manque une bonne partie pour acheter le billet retour.
D'accord, et tu peux pas travailler là-bas.
Et je peux. Bah.
Ouais, Nicaragua, on gagne pas grand-chose.
C'est compliqué.
Quand on bosse
c'est,
ouais. Sur des boulots alimentaires.
C'est assez compliqué.
Ok, bon, t'arrives en France et là, non seulement t'as pas d'argent, mais t'es endetté face à ton père.
Ouais. Et le retour a été dur. C'est pas le cœur de peut-être du sujet là.
Le
aujourd'hui,
sujet, c'est toujours la question de l'argent et du travail. Comment tu vas rebondir
ouais. Grosso modo, en fait, mon retour en France, c'est une grosse claque dans la tête pour des raisons diverses et variées, des relations amoureuses, des relations amicales, et du coup, je me remets vraiment à me mettre en question sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Et
la réponse.
Et bah, la réponse, ça va être, ça va prendre quelques temps, hein, quelques mois, voire 2-3 ans, ça va être,
oui.
Ça va être me former comme éducateur, en gros.
Voilà, bon, là, tu te positionnes sur un métier.
Je me positionne sur un métier.
C'est pas n'importe quel métier, puisque tu l'as abordé de plein de manières, voilà. Intellectuellement par la sociologie, pratiquement par la garderie,
ouais.
Et aussi au Portugal.
Voilà.
Donc ça, c'est une formation de 3 ans.
C'est une formation de 3 ans. Donc,
payante.
Ouais. Alors, je me fais financer par Pôle emploi. J'ai des droits chômage à ce moment-là.
D'accord. Et pour vivre ça, et Pôle emploi te paye aussi le
Pôle
chômage,
emploi ouais. Me paye. Je touche genre 1000 balles par mois, tout le temps de ma formation.
Oh ben là, tu t'es bien débrouillé. Là,
je me suis bien débrouillé. Ouais, ouais. Et voilà. Du
ça,
coup...
c'est bien. Et donc, à l'issue de ces 3 ans... un vrai diplôme, un vrai boulot, et
voilà.
En plus, on en cherche des éducateurs, surtout dans la région parisienne.
Surtout à Paris. Alors moi, pendant cette formation, je découvre un secteur, un domaine que je ne connaissais pas du tout, qui est la santé mentale, qui est le travail auprès de personnes dites souffrantes, psychiques, autistes, troubles psychiatriques. Voilà.
Schizophrénie.
Tout ce domaine de la santé mentale que je ne connaissais pas du tout, ça me passionne en fait.
T'es au milieu d'un boulot qui te passionne finalement.
Voilà. Donc je vais travailler 3 ans ensuite, après avoir mon diplôme, dans un endroit formidable, qui est l'école expérimentale de Bonneuil-sur-Marne, c'est à côté de Paris, qui est un endroit fondé par des psychanalystes, éducateurs, psychologues, militants qui ont essayé de remettre en cause la condition des, on va dire, la condition des gens catalogués comme malades mentaux, fous, déficients,
etc. Moi, je vois un lien avec la clinique Laborde là,
Il y a un
de
lien.
Gattari.
Il y a un lien à faire avec cette mouvance de psychothérapie institutionnelle, en fait,
C'est
c'est
ça,
comme
ouais.
ça que ça s'appelle, qui s'attaque au modèle asilaire. Je schématise, mais bon, bref, un lieu passionnant de travail, d'échange, de recherche et d'accueil. C'est passionnant. 3 ans, je travaille là-bas.
Donc là, tu es au bon endroit. En plus, tu peux éventuellement reprendre des études de psycho. Enfin bref, là, il y a un
Voilà.
potentiel énorme.
Là, ça réunit plein de choses. À la fois, je gagne ma vie, je
Ouais.
gagne ma croûte, et bah, c'est important, hein,
Oui,
pour
très important.
c'est, voilà.
Sinon, on est
Sinon,
dans la misère.
on est dans la misère. À la fois, c'est super enrichissant intellectuellement. Je m'épanouis, quoi, intellectuellement dans mon travail. J'ai des échanges super riches avec mes collègues. Ça, c'est important. C'est aussi une dimension du travail. On n'est pas tout seul. On travaille avec des gens qui forment une équipe, quoi. Humainement, c'est passionnant aussi. Voilà.
C'est fondamental, ouais.
Du coup, toutes sont réunies pour que oui,
Pour que tu t'installes, que ça
je
marche et que ça
suis bien.
continue, et peut-être que ça rentre en expansion. Sauf que.
Sauf que la vie fait que j'ai une copine à cette époque-là et qui n'aime pas trop Paris et qui me dit, allez, vas-y, on se casse de Paris. Moi, ça me va aussi à cette époque-là. J'ai vécu des années à Paris et j'ai envie de voir autre chose. Donc, en bref,
T'as quel âge à ce moment-là?
En gros, on est en 2011-2012, on part en 2012. Donc, j'ai 37 ans.
37 ans, ok, bon, tu as encore beaucoup de ressources à cet âge-là,
Ouais.
on est encore très très plastique, très mobile, et tu peux espérer. Ah, qu'est-ce que tu espères en Bretagne du point de vue du boulot, hein? Quand tu pars, c'est quoi?
On part en bout. Ouais, bah j'espère. Je me dis, bah tiens, j'aimerais bien continuer mon métier d'éduc quand même, qui
Ouais.
me passionne. Avec quand même, je sais que quand même c'est dur. Le secteur est difficile. Même si moi, j'ai travaillé dans un endroit exceptionnel. Avec une pédagogie singulière qui fait que le lieu est quand même à part dans le secteur, je
D'accord.
savais très bien que quand
Tu avais
même,
conscience que c'était pas
que
tous les métiers
voilà,
d'éducateur, enfin tous les
c'était
endroits où
pas
on est
tous les
éducateur.
lieux où je pouvais exercer mon métier d'éducateur qui était comme ça,
T'as
que
conscience
c'était.
d'un risque, mais bon, tu le prends.
Et
Et comment ça se passe?
bah, ça se passe que je vais bosser dans un endroit où ça se passe pas bien, dans un IME à côté de Brest. Ça se passe pas bien parce que bah, y a la souffrance au travail de la part de l'équipe
Ah oui, à cause de quoi?
pédagogique.
Elle vient d'où?
Alors ça vient d'où? Alors c'est un gros problème. C'est que le secteur médico-social, parce qu'un IME, c'est pas le santé mentale, c'est médico-social. On est dans le handicap, l'accompagnement du handicap, c'est un autre domaine, on va dire, qui est lié, mais bon, bref. Ce secteur-là bah, connaît des logiques que connaît plein de secteurs, c'est-à-dire des logiques de rentabilité, des logiques de management des équipes très très dures, avec moins de moyens. Moins de ressources humaines et du coup de plus en plus c'est à flux tendu et les équipes sont sous pression, c'est compliqué avec des espèces de hiérarchies qui se mettent en place avec des postes chef, sous-chef de ceci, de je sais pas quoi et qui déstabilise complètement, qui déstructure les équipes, qui font que les équipes sont en souffrance et le personnel est en souffrance et perd de sens de leur travail.
C'est ça, vous êtes plus en. Bon, d'une
Bref,
part, on vous coupe votre autonomie, et d'autre part, par rapport aux enfants qui sont là,
bah,
vous avez plus peut-être les moyens,
il
ou
n'y a
vous êtes
plus les
obligé
moyens.
comme dans les EHPAD, vous êtes obligé de faire des choses qui correspondent pas forcément au métier tel que
Exactement.
vous le concevez.
Exactement. Grosso modo, c'est ce qui se passe. Donc,
D'accord,
du coup. Alors, mais en fait, concrètement, moi, j'arrive dans l'IME à côté de Brest où je vais travailler dans une section qui accueille des enfants autistes lourds. Donc déjà, c'est une aberration en fait de mettre tous les cas lourds ensemble. Mais bon, bref, passons. Et là, je travaille avec une équipe. On doit être deux éducs plus deux infirmiers, quatre en gros. Se rajoutera à un moment une espèce de chef d'équipe. Voilà, on est 4-5 à gérer une vingtaine de jeunes, d'ados, aux profils divers et variés, mais avec vraiment parfois des énormes difficultés, hein, énormes, énormes, quoi,
D'accord.
dans la relation. Et je tombe dans une équipe qui est en souffrance, quoi. Ma collègue éducatrice, elle est en souffrance, elle est quasi en burn-out, elle s'arrête, elle a fait des dépressions, elle me raconte.
D'accord. Et qu'est-ce que tu décides alors?
Bah, je décide de voir qu'est-ce qui est possible, en fait, déjà, dans un premier temps, avec les équipes, avec mes collègues, avec les autres collègues de l'IME. Je
Il y a aussi
vois,
des syndicats, là, c'est un secteur
il y a un
syndiqué.
syndicat, je vois, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, assez vite, je me rends compte que c'est compliqué. Et en fait, de façon très anecdotique, je vais me faire gueuler dessus par la directrice parce qu'il y a un malentendu, un moment, sur la gestion du groupe. Moi, je me détache, en fait, pour accompagner un jeune qui, tous les matins, venait puis repartait, essayait de fuguer. Du coup, avec les collègues, on avait décidé, bon, bah, en fait, on va.
Ça, vous avez inventé une organisation
On
propre
avait.
à la situation, mais qui n'est pas
Voilà.
forcément validée par la directrice.
Exact. Bah ouais. On
Ouais, ouais,
avait
ouais.
inventé un truc. Bah, il y a toujours une personne qui va aller
Oui.
accompagner cette personne parce qu'il peut se barrer. Il se barrait, en fait. Donc,
Bref, donc là,
bref.
on te dit stop,
On me dit
et tu comprends
stop.
que tu n'es même plus maître de la façon d'exercer ton
Voilà.
propre métier, ouais.
Et grosso modo, mon contrat va pas être renouvelé.
Ah, ok, d'accord, donc on te vire.
Donc,
Et
on me vire.
après, il y a d'autres, parce que dans...
Après, j'ai une autre expérience dans un autre type d'établissement qu'on appelle un hôpital de jour. Donc là, on est plutôt sur le secteur santé mentale qui dépend d'un hôpital psy, bref, qui accueille des enfants, ados, problèmes psy, autistes, etc. Et moi, je fais un remplacement de 2 mois, un été, et c'est catastrophique pour moi parce qu'il y a de la maltraitance.
Des patients.
La maltraitance de la part du personnel sur les patients, sur les enfants, les ados. Une maltraitance institutionnelle, en fait, pour moi, puisque qui est validée par la direction, qui
C'est
ferme les
une
yeux, ou.
façon de gérer les choses, quoi, pour eux.
Voilà.
Ouais, c'est dur.
Et en fait, je suis face à des collègues infirmiers, infirmières, qui vont partir en retraite, qui sont incapables de se remettre en question. Donc, quand je dis maltraitance, je sais pas, c'est par exemple, elles vont obliger le matin un adolescent, un enfant à prendre son jus d'orange. C'est parce que c'est le rituel.
Ouais.
L'enfant ne veut pas prendre son jus d'orange. On va l'enfermer dans une pièce 1 heure.
On est à l'encontre totale de la
Ouais.
clinique, enfin de l'endroit où tu étais à Bonneuil.
Voilà.
Ok, donc deux endroits.
Deux expériences
Ouais.
qui
Et donc t'en
me.
cherches pas une troisième.
Non, je me dis c'est fini, en fait, je vais arrêter mon métier parce que vu l'état du secteur, soit je finis en dépression, soit je me blinde moi-même et je deviens maltraitant. Donc j'arrête.
Mais là, tu as une quarantaine d'années. Tu as déjà un enfant aussi?
Non, c'est juste avant la naissance de ma
D'accord.
fille, ça.
Ok, alors comment. C'est dur. Comment faire? Comment faire?
Comment faire? Bah, j'arrête et puis je me dis, tiens, je vais essayer de faire un truc que j'ai toujours aimé, travailler le bois.
Ah, carrément, tu changes.
Je change, je fais un CAP charpente en
Financé
formation adulte,
par la NPE
financé par. Ouais, exactement.
Et payer 1 000
Je
euros,
m'arrive
enfin.
toujours à me débrouiller.
Non, mais ça c'est bien, mais
Payer.
c'est pas que tu te débrouilles, c'est l'État,
Ouais,
Providence
ouais.
peut-être, mais qui est là pour aider les gens à. C'est
Payé
normal qu'on
par.
t'aide, c'est normal qu'on t'aide,
Ouais.
c'est normal qu'on t'aide à changer de boulot. Donc tu le fais, et si je me souviens bien, tu montes même avec des
Ouais,
copains une entreprise.
la formation dure 1 an, hop, j'ai mon CAP charpente, donc je peux bosser comme charpentier. Et avec 2 copains que j'ai rencontrés pendant la formation, on va dire, on travaille ensemble, on monte une petite structure indépendante. On a chacun le statut auto-entrepreneur parce que c'était le plus simple pour le premier chantier qu'on a fait. Il fallait trouver un truc vite, c'est ça qu'on a fait. Et du coup, on va bosser 1 an, 2 ans ensemble. À faire divers chantiers d'ossature bois, d'hangars, etc. Plein de choses.
Là, tu es sur le mot d'ordre de Macron, hein, devenez votre propre
Ouais,
entrepreneur,
ouais,
créez votre
ouais.
métier. Donc, c'était un héros
Un héros
de
de.
la start-up France.
Voilà. Je le vis
Mais,
pas comme ça, mais
ouais.
ouais. Mais oui, super chouette moment dans ma vie parce que je travaille avec des copains. Je découvre un métier qui est très très concret. Donc en fait, je me pose plus de questions.
Oui, là, c'est oui.
Je vais pas passer mes soirées à lire Lacan et à essayer de comprendre la psychose. Nanana. Là, non, là, j'essaye de faire au mieux ma maison au sable turbois, mon escalier. Du coup, c'est concret. Ah ouais, il faut penser à ça et ceci, cela.
Et ça marche à l'époque. Enfin, normalement, ça marche le secteur là où ça turboie, les maisons où ça
Ouais,
turboie.
je sais
C'est le
pas.
début.
J'en sais rien, mais en tout cas, nous, on est contents.
Ouais.
Ça marche bien. Et après, bah en fait, après, bon, un copain part à Lyon, un autre copain est salarié par une boîte. Et
Et
moi,
pourquoi ils partent? C'est parce que ça marche pas assez bien ou parce que...
non, non, c'est la vie.
Ouais, ok, la vie, ouais.
Le premier copain qui part à Lyon, il est avec sa compagne, il décide de
Ouais.
s'occuper de partir de vivre à Lyon pour des raisons professionnelles, personnelles à tous les deux.
D'accord, ok.
Et l'autre copain, il se salarie parce que c'est une super boîte pour laquelle il va travailler.
D'accord.
C'est super intéressant. C'était une coopérative qui n'existe plus à l'époque. Mais bon, bref, c'est une super occasion à saisir.
D'accord.
Et il est très, très, c'est un très bon charpentier. Donc voilà.
Et toi, tu te retrouves tout
Moi, je me
seul.
retrouve tout seul. Moi, je suis pas le meilleur charpentier du monde, loin de là.
Non, mais tu aurais pu trouver d'autres associés.
Ouais, j'aurais pu trouver, mais c'est quand même. En fait, soit je vais travailler dans des entreprises qui ont une fibre écologique un peu, il n'y en a pas beaucoup. Et soit je vais faire des travaux alimentaires dans la charpente, menuiserie pour des gros groupes qui utilisent des matériaux de merde, ou bon, bref, qui ne me correspondent pas. J'ai pas envie, quoi, en fait, d'aller bosser pour des grands groupes.
Mais là, tu as un enfant déjà, là.
Là, je viens d'avoir un enfant, ouais.
Ouais, bon. Donc, il faut assurer.
Faut assurer. Du coup, j'ai pas confiance en moi, en fait, d'assurer tout seul par ce métier de charpente. J'ai
À
pas.
trois, vous aviez des compétences complémentaires.
Ouais, on se débrouillait. Et puis c'était un autre modèle voilà. Mais
Ok.
là, j'ai pas assez confiance en moi, donc j'arrête.
Tu aurais pu te lancer comme salarié aussi.
On l'aurait pu,
Enfin, tu
mais
viens de répondre, tu dis non, ouais, mais
c'est un
il n'y
manque
a
de.
pas assez.
Ouais.
Ouais, bon.
C'est pour diverses raisons, manque de confiance en moi, pas envie d'aller bosser pour des gros groupes qui utilisent des matériaux qui, pour moi, sont un modèle de merde, en fait. J'ai pas envie de contribuer à ça. Et je me sens pas légitime, en fait.
D'accord, bon, encore obligé d'imaginer une autre voie.
Voilà. Donc, je trouve un boulot de, comment on appelait ça, d'accompagnateur de service à la personne.
Alors, moi, tout à un moment, on a évoqué l'affaire quand même. Tu es éducateur spécialisé, tu as le diplôme, tu l'as fait, bon, ça t'a pas plu, enfin, t'as pas plu, les conditions sont pas là, mais. Et à côté de ça, tu es charpentier maintenant, et il y a des boulots d'éducation par le travail.
Éducateur technique.
Voilà, et ça.
Si, ça, c'était mon idée, en fait. J'avais cette idée-là, en fait, en tête, d'avoir une compétence technique dans la charpente pour devenir éducateur technique, pour après travailler dans des ateliers avec des ados, des jeunes, voilà,
Ouais, ça semble
de
vraiment.
réinsertion. Et j'avais cet appui technique du travail du bois pour faire ça. C'était mon projet, en fait.
Et pourquoi ça s'est pas
Sauf,
fait?
bah, ça s'est pas fait parce que d'éducateur technique, il n'y a pas de place, quasiment, il y a très très peu de place.
Ah oui. Est-ce qu'on peut
Et
pas mettre en cause Brest là où à Paris t'aurais trouvé, à Brest tu trouves pas?
en plus, il aurait fallu que je repasse un diplôme. Parce que, en
Ah, c'est
fait,
vrai?
éducateur spécialisé plus mon CAP de charpente,
Ça fait pas
ça faisait pas un éducateur technique.
Ah, dis
Bon,
donc,
bref.
d'accord. Ouais, ok.
Alors, si, bon, j'aurais. Voilà.
T'auras pu
Donc.
enseigner à la charpente aussi, ça, enfin, faut avoir 5 ans de
Ouais,
métier.
non,
Non.
j'aurais pas fait un bon
D'accord.
enseignant.
Bon, bref, alors tu es obligé de quitter ce deuxième boulot qui t'a plu, mais qui, voilà, qui se réalise pas pour
Bah, je
des.
reviens dans le social et je trouve un boulot d'accompagnateur de service à la personne.
Ça, c'est un métier dur, hein, vraiment. D'avance, on le
Ouais.
sait, tout le monde le sait, ça.
Alors là, je suis à une période de ma vie où de toute façon, je dois travailler. Il me faut que des sous rentes. Je vois cette annonce accompagnateur. Il cherche des profils d'éducateurs. Je me dis, tiens, c'est intéressant. Je postule et bah, je vais travailler 1 an et demi dans une entreprise de service à la personne. Du coup, en fait, je me déplace avec mon véhicule et je vais rendre visite à une personne âgée qui a besoin qu'on lui fasse des courses. Ensuite, je vais me rendre, je vais aller prendre un enfant autiste à la sortie de son IME. Et le temps que ses parents rentrent chez eux, bah, je m'occupe de lui. Le
Oui.
lendemain, je vais aller chez une personne qui a des troubles mentaux. Et voilà,
Mais là, tu es encore sur un
etc.
boulot qui te plaît, je pense, qui est utile,
Non.
nécessaire, mais
Là, alors là, non. Là, je
non.
suis sur un boulot qui, a priori, me plaît, que je trouve
Ouais, c'est ça,
intéressant.
a priori, ouais.
Mais concrètement, non, c'est l'horreur. C'est une entreprise dont le but est de faire de la thune, hein, en grosso modo.
Ouais, qui te laisse tes charges, enfin qui te laisse payer ta bagnole, ton
Voilà.
essence, qui te paye mal, j'imagine, ouais, dans
On
service
est
à la personne.
en remboursé hein, quand même sur les transports. Hein. Il y a des défraiements d'essence. Mais c'est une bataille. Hein,
Et qui demande en plus, j'imagine, du rendement,
qui
c'est-à-dire.
demande du rendement. Du coup, en fait, il faut qu'on soit super flexible au niveau des horaires. On s'adapte tout de suite. Tiens, là, cet après-midi, tu vas aller là. En fait, moi, j'avais été embauché avec la promesse, c'est ce qu'elle m'avait dit, de quand même de faire un accompagnement éducatif, d'avoir du temps, de mettre en place des projets. Mais en fait, pas du tout. Hein. On fait des visites éclairs et puis juste de la présence et puis on enchaîne.
Ok.
Et du coup, pour moi, c'est très dur. C'est un moment très, très, très dur. Un an et demi où. Alors
Dur parce
après.
que bon, fatigue, manque d'argent.
Fatigue, psychologiquement.
T'es maltraité. Enfin, t'es
Je
maltraité. Tu peux
suis.
considérer que t'es
Ah ouais, je
maltraité parce que
suis.
t'es plus qu'un pion. Ouais.
Je suis pas bien. Hein. Et alors, je prends du recul au fur et à mesure, mais je suis vraiment pas bien, en fait. C'est très, très dur. Surtout qu'en fait, après, en plus, on bosse avec des gens qui. Quoi, je suis en contact avec des personnes
Ouais, c'est ça. Donc
qui vont
il
mal
faut faire,
aussi. Hein,
ouais, faut
donc,
les bousculer pour que ça aille plus vite.
c'est compliqué, quoi. Je suis vraiment mal, quoi. Et bon, ben, j'arrête au bout d'un moment parce que, voilà, j'arrête parce que c'est plus possible. Et puis parce que j'ai un autre projet à ce moment-là.
Ah, alors lequel?
Ben, on part en voyage.
Ok, mais vous avez de l'argent pour ça,
On
ouais.
a mis de côté, on part en voyage avec ma compagne de l'époque, plus ma fille qui est alors à ce moment-là, qui a 2 ans, 2 ans et demi,
Ah oui.
plus un couple d'amis. C'est un projet qu'on avait longuement mûri de documentaire radiophonique
Ah
en
super.
Amérique latine. Donc on va partir à peu près un an faire ça.
D'accord, super. Et vous avez ramené un documentaire?
On en a ramené plein.
C'est vrai? Vous avez pu en vendre?
Non.
Ok. Bon, excuse-moi, je ris, mais c'est pas. On est toujours sur le même problème. Non, parce que tu as des tendances à chaque. Enfin bon, j'ai l'impression que tu te ramasses à chaque fois et pourtant tu rebondis surtout sur des choses vachement bien, là. Et le retour d'un voyage, c'est pas facile en général. Hein.
Ouais, alors là, ça a été un super retour,
Ah,
super
d'accord.
chouette. Je rentre de ce voyage, donc vraiment super. Et en fait, j'ai 2 ans de chômage qui commencent là.
Ah, c'est bien, dis donc,
Ouais.
qui était dû à
Qui
ton
était
boulot
dû
précédent.
à
Hein.
mon boulot précédent
Ouais, mais.
d'accompagnateur et d'autres petits trucs que j'avais fait
Et
avant.
comment t'as justifié ton un an sans rien
Bah, je
faire?
sais plus comment j'ai
Mais
justifié,
bon, ça a
mais
marché, 2 ans
ça a
de chômage.
marché. Le chômage, c'est.
Alors, est-ce que tu en as profité pour essayer de trouver un boulot qui te plaît et mais qui paye, quoi? C'est-à-dire, par exemple, dans
Non.
la radio, par exemple, dans la musique, par exemple, du côté des éducateurs, on peut aussi, par exemple, être famille d'accueil. Enfin, il y a des choses, quand même.
Ouais, bah non, j'ai pas du tout
Non?
profité de ces 2 ans pour ça. J'ai fait 2 ans de radio à fond,
Ah oui, ouais, mais la radio, ça paye pas, hein,
à
ça.
Radio Piquet, en mode militant.
D'accord, ouais.
Voilà, donc je m'éclate, hein, je
Mais
fais.
est-ce que tu as une inquiétude à ce moment-là? Tu as 40 ans au moins, là. C'est ça, hein. Et est-ce que tu as une inquiétude pour la suite? Ou non, non, le moment présent, je fais de la radio, j'ai le chômage, donc tout va bien?
Ouais, non, j'ai pas trop d'inquiétude. Je suis bien dans ma vie. Je fais des choses qui me passionnent. Je travaille sur des sujets qui me passionnent. Je suis en couple avec quelqu'un que j'aime. On a une enfant super, quoi. C'est le bonheur. Alors, après, je veux dire, plus l'échéance de la fin des droits chômage approche, le plus je commence à me dire, bon, merde, faudra travailler.
Il faut prévoir
Mais
quelque chose, parce que
je
si tu prévois
prévois.
pas, tu vas te retrouver couteau sous la
Ouais,
gorge.
bon, bah en fait, j'ai pas prévu, donc je me retrouve un moment dans la
Ouais.
merde et je fais un boulot de merde. 2020, juste avant le confinement. Je commence à travailler 15 jours avant le premier confinement en mars
Tu bosses chez
2020.
Savéol, c'est ça, je
Je
crois.
bosse chez Saveol, ouais.
Ouais, c'est un travail de saisonnier agricole, là.
Exactement. Alors, je vais avoir une petite chance dans mon malheur, c'est que je vais pas travailler dans les serres ou à l'usine. Je vais aller travailler à la ferme des insectes.
Ah oui, là, ça devient élaboré, ça peut être élaboré, ça peut être intéressant. Hein.
Ça peut être intéressant, mais en fait, non, mais ça peut.
D'accord.
Bon, ça dépend. Donc, c'est une ferme où ils élèvent des bourdons et puis d'autres petits insectes. Alors, les bourdons, c'est pour les polliniser les fleurs de tomates. Ça leur permet de se passer de pesticides, quoi. C'est comme ça qu'ils justifient leur truc. Élevage de bourdons, élevage. On se sert de la nature,
Oui, mais
etc.
c'est
Bon,
a priori, c'est vachement bien.
a priori, c'est vachement bien, mais en fait, c'est un gros greenwashing terrible. Hein. Je veux dire, c'est du n'importe quoi. C'est un
Ah.
élevage industriel dans des conditions industrielles. Donc, bon, ça n'a pas de sens. Hein. Mais bon, bref,
Ouais.
c'est parce que Saveol, leur production, c'est du hors-sol en serre. Ça, c'est un gros problème. Donc, bon, bref. Mais je vais travailler. Combien de temps là? 6 mois dans la ferme des insectes à l'élevage de bourdons. Je vais faire un boulot de merde. Hein. Je vais être ouvrier
Ça
de.
consiste en quoi? Tu
Je
donnes
vais
du
travailler
sucre
à
au
la chaîne.
bourdon, à la
Ouais,
chaîne. Comment?
moi je vais faire les petits travaux à la chaîne. Je vais faire plongeur. Je vais beaucoup faire plongeur à laver tous les ustensiles dont ils ont besoin.
Ah, tu fais la vaisselle.
Je fais la vaisselle. Hein, j'arrête pas. Je fais des petits travaux à la chaîne qui vont pour aider les éleveurs. Donc,
D'accord. Oui, t'as... Ouais.
préparer les nids, qui sont des nids en plastique où on rajoute un
C'est
truc.
ça, ils ont taylorisé le boulot et tu tombes
Exactement.
dedans. Ouais, bah c'est ça. Quand on
Exactement.
taylorise, tout d'un coup, il faut se barrer, quoi.
C'est ça. Donc, voilà. Voilà. Je vais.
Et donc, tu quittes cet endroit pour faire quoi d'autre, alors?
Bah non, mais ça, je fais toute une saison. 6 mois à ferme des insectes, puis après 2 mois à l'usine d'emballage des tomates. Donc à la chaîne, il y a les tomates, on les met dans une
Ouais.
barquette et puis voilà. Donc voilà, je vais faire une année comme ça, 8 mois. Bah en fait, ça me permet d'avoir le chômage derrière. Et en fait, je vais faire 2 ans comme ça.
D'accord, un coup au boulot,
Une
un coup au chômage,
saison,
ouais.
Samuel, chômage qui me permet de faire plein de projets de radio.
Mais
Hop.
t'as, ouais, mais à ce moment-là, tu vas vers la radio. Bon, c'est super la radio. Tu as bien compris que ça rapportait rien. T'as pas idée de profiter du chômage pour peut-être, je sais pas, repartir dans un truc qui est monnayable.
Non, pas du tout, mais à cette époque-là, ma vie personnelle change du tout au tout.
Et tu divorces, ouais.
Je me sépare et tout, et du coup, je suis pas bien pendant longtemps.
D'accord.
Ça, c'est un tournant dans ma vie, qui fait que ça va pas être évident.
Oui, ça fait partie des choix.
Ça
Enfin,
fait.
comment ça fait partie? Finalement, ça impacte sur la vie professionnelle aussi, sur la façon de
Ça.
se diriger, s'orienter.
Bah oui, qu'on le veuille ou non, ça impacte sur plein de choses. Donc
Économiquement aussi, d'ailleurs.
voilà. C'est pas pour me plaindre, hein, mais c'est juste que c'est un gros tournant dans ma vie. Donc je mets beaucoup de temps à me dire, à retrouver un sens, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, etc. Ça prend du temps jusqu'à aujourd'hui encore, hein, je veux dire,
D'accord. Et
même
donc,
si ça va maintenant, mais.
comment tu s'en sors du point de vue boulot là?
Bah, je fais ces 2 années de saison.
Et après, ouais.
Après la troisième, en fait, la troisième année, à la fin de la deuxième saison, je dis à ma responsable, je dis, bah, en fait, moi, je veux bien continuer avec vous, à une condition, je travaille à 80%.
D'accord, c'est pas excessif comme besoin,
Voilà, je
demande.
travaille 4 jours.
Ils acceptent?
Non, ils
Non,
n'acceptent pas
ils
parce
n'acceptent
que
pas.
dans leur process, c'est pas possible. Donc,
Ah, c'est vrai, ils ne peuvent pas
ouais.
inclure quelqu'un à 80%.
Voilà, la réponse est non.
Alors que tu as une expérience, que tu as montré que tu
Ouais.
bossais correctement. Bon.
Oui, puis bon,
Ça, c'est terrible.
c'est
Ouais,
pas un
bon.
boulot compliqué, je veux dire.
Ouais, ouais, ouais.
Bon. Ils n'acceptent pas, donc je leur dis, bon, bah, non, bah, je reviendrai plus, parce que je savais qu'ils allaient me reprendre. Tout se passait très bien, je m'entendais très bien avec tout le monde. Donc je leur dis, bah, ok, bah, moi c'est non pour la prochaine fois, la prochaine
Ok,
saison.
donc cinquième épisode. Là, tu as 45 ans peut-être.
Ouais, et ben, je suis chômage, la saison avance, on arrive au printemps, je sais que le chômage va s'arrêter genre en septembre. Bon, j'ai pas envie, j'ai fini là, les saisons à Saveol. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je regarde les annonces Pôle emploi et je vois une annonce de porteur-chauffeur
Ah voilà, on
funéraire
y arrive.
à mi-temps. C'est ça qui m'a intéressé au départ, c'est que c'était à mi-temps. Ça me laissait beaucoup de temps. Et curiosité, hein, curiosité.
À mi-temps, ça fait un tout petit salaire. T'as déjà ta fille
Ça faisait un tout petit salaire, mais j'avais le chômage en complément. Ah donc, ouais, je pouvais encore tenir un an comme ça, en fait.
D'accord,
à peu près.
Ok. Bon. Et puis, c'est un drôle de métier. Alors là, comment tu l'appréhendes? Comment ça marche? Parce que, bon, la première partie de ton boulot que tu as décrit tout à l'heure, c'est transporter des cadavres et tu m'en as raconté un peu. La plupart du temps, ça se passe très bien. Vous allez en EHPAD, c'est un corps. Mmh. Et quelquefois, il faut porter les cadavres qui, quand vous arrivez, et c'est.
Qui sont
un peu
dans
tard,
un état,
et donc le cas, et c'est un état de
décomposition,
on peut le dire.
Ouais, exactement.
Donc ça, c'est très, très, très... Enfin, moi, ça me semble très dur. Mais, toi, tu le supportes. Comment ça se passe, la découverte de ce métier,
Comment ça se passe Ça se passe que j'arrive dans une équipe plutôt sympathique, masculine, dans un grand groupe. Je travaille pour un grand groupe funéraire. Si vous voulez, le secteur funéraire, il est dominé par deux grands groupes, deux holdings qui ont une grosse part du marché. Et après, il y a des acteurs soit indépendants, un peu d'acteurs publics ou des coopératives. Moi, je travaille pour un des plus gros groupes funéraires français et européens.
Qui occupe la moitié, d'accord.
Mais je trompe dans une petite équipe, à Saint-Renan, très sympathique. Du coup, si vous voulez, la découverte du contact avec le cadavre se fait assez rapidement. Et ben, en fait, je m'aperçois que j'ai pas de problème.
Ça, c'est une chance.
De prendre.
C'est pas le cas de tout le monde.
C'est pas le cas de tout le monde, je pense, de manipuler un cadavre, de le positionner bien sur son lit de présentation, oh, j'ai aucun souci avec ça.
Ouais. Et dans ce nouveau métier, m'as parlé de finalement de plaisir malgré tout, non pas forcément du transport de cadavres, mais l'idée d'utilité.
Alors,
et l'accompagnement des vivants qui sont en train de perdre quelqu'un. Ouais.
En fait, je découvre quand même un métier, un domaine passionnant parce que c'est fondamental s'occuper des morts, s'occuper de nos morts, quoi, de nos anciens, de nos anciennes, de nos proches qui viennent de mourir. Ça va arriver à tout le monde, a priori.
Mmh. Pas d'exception,
donc,
non.
C'est fondamental, c'est intéressant. Comment notre société traite cette question-là? En fait, c'est terrible comment elle la traite, puisqu'elle la traite de façon business, puisque ces deux groupes dont j'ai parlé, c'est du business pour eux.
En même temps, il y a des services municipaux, il y a des coopératives,
mais c'est
essentiellement du business.
C'est les services municipaux n'existent quasiment plus. Ils ont existé un moment dans l'histoire, mais en fait, non, ils n'existent plus. Et comme encore plein d'autres domaines, ces services municipaux sont rattrapés par une logique du privé et de la rentabilité. Donc, quand c'est le service municipal, malheureusement, il y a une logique de rentabilité,
Moi, j'ai envie de faire l'avocat du diable là, parce que effectivement c'est un business, mais il y a d'autres personnes qui appelleraient ça gestion, bonne gestion, optimisation, et on peut faire bien son métier, on peut laisser les gens faire bien leur métier tout en tenant des tableaux Excel où on optimise, ou on peut pas, peut-être.
Pour moi, non, on peut pas faire bien un métier quand on est tenu à des objectifs de rentabilité dans un secteur qui, par essence, ne peut pas être rentable.
Qui, pour toi, devrait être un service public, c'est ça?
Ah, clairement. D'accord. Clairement, comme l'éducation devrait être un service public, la santé devrait être un service public, je dis devrait être, parce qu'en fait, la santé est un service public, mais on est en train de la détruire.
On le privatise de plus en plus.
Donc,
comment ça se passe dans les pompes funèbres? Quels sont les impacts négatifs du fait que c'est aux mains de gestionnaires, de financiers?
C'est très compliqué
La question est compliquée, oui. Toutes mes questions sont compliquées.
Alors, soyons concrets. Il y a deux holdings qui dominent le marché. Ces holdings-là, clairement, les managers à la tête de ces holdings-là, ils n'ont qu'un but, c'est le chiffre d'affaires. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, ils ont monopole, par exemple, ces deux trucs ont le monopole sur la construction et la vente de cercueils.
Ah oui.
Mais en fait, il faut se rendre compte le profit qu'ils en tirent. C'est incroyable. Je veux dire, c'est un marché énorme. Ils gèrent leur propre forêt. Soi-disant, ils vont l'habiller équitable, etc. Mais en fait, non. Il y a beaucoup de bois qui viennent de Chine et d'ailleurs. Donc, rien sur cet aspect-là, c'est dégueulasse.
D'accord.
Ces boîtes-là forment leurs propres conseillers, conseillères funéraires, maîtres de cérémonie. Parce qu'en France, il n'y a pas de métier, il n'y a pas de formation publique. Ni à l'université, ni dans aucune école.
Ils ont leur propre école.
On n'apprend pas ce métier-là. C'est ces gros groupes-là qui font leur propre formation, qui ont leur propre centre de formation. Avec une optique très commerciale. Donc...
Commercial, ça veut dire quoi? Vendre le chocolat le plus cher?
Vendre l'obsèque la plus chère possible. Mmh. Alors, ils vont s'adapter, bien sûr, au public, mais... c'est scandaleux, en fait. Puisqu'ils vont jouer sur deux choses. Sur l'ignorance du public.
Ça, c'est sûr, oui.
Et sur la vulnérabilité des gens aussi, dans un moment de deuil et de
perte. C'est un moment terrible, oui. OK, bon, on va... Peut-être pas faire une analyse économique, mais on peut, par contre, ce qui m'intéresse, moi, c'est toi là-dedans. Parce que finalement, tu critiques ce métier, mais tu critiques sa dimension d'exploitation économique.
Je critique les groupes industriels.
Ouais, mais en revanche, tu penses que c'est un métier très utile et finalement, la partie la plus dure, tu la supportes et la partie la plus noble, je dirais, qui est l'accompagnement des vivants lors des obsèques, etc. Tu m'en as dit du bien au sens, non pas que tu jouis de cet endroit-là, mais c'est un métier social, humain, etc. Et moi, je me suis posé la question à ce moment-là, est-ce que tu ne pourrais pas essayer de devenir conseiller funéraire puisque
maître de cérémonie.
Ouais, maître de cérémonie, c'est ça, ouais. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que non? Pour quelle raison, alors?
Ouais, si, c'est envisageable. Pas pour un des groupes... dont j'ai parlé, pas pour le groupe pour lequel je travaille aujourd'hui.
Il y a aussi des coopératives, hein. Il y en a une à Rennes.
Non, mais bien sûr. Mais je précise, ça m'intéresse comme métier, mais pas dans ce cadre des gros groupes industriels. Jamais.
D'accord.
Les coopératives, il faut en dire quelques mots. Donc, il y a un mouvement de coopératives depuis quelques années, coopératives funéraires qui se montent et qui essayent de vraiment faire une alternative la proposition funéraire. Bon. Qui essaie vraiment d'associer les gens, les proches, les familles dans ce moment de deuil pour être au plus près de leurs demandes, de leurs souhaits et que ce temps de funérailles ne continue par la suite sur une réflexion de la place de la mort dans la cité. En gros, c'est ça. Un mouvement super intéressant qui reste très très marginal en termes de chiffres et d'affaires et de place.
De poids économique.
De poids économique. Mais qui est en expansion et il est vraiment très, très intéressant.
D'accord, donc il y a quelque chose à faire peut-être.
Il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Après, moi, je suis plus radical. Il faut que ce soit un service public. Voilà.
D'accord. Oui, mais dans ta vie au boulot, tu n'es pas là pour faire... Enfin, peut-être. Tu n'es pas là pour faire la politique, tu es là pour t'en sortir.
Les deux.
Les deux, ok. Bon, on va pas... il ne reste pas tant que ça de temps. Pourtant, la question là serait intéressante. Je vais l'aborder d'une autre manière. Parce que finalement, là, maintenant, tu es dans un boulot que tu juges utile, qui n'est pas seulement alimentaire. Ceci étant, il est aussi alimentaire, c'est 35 heures. Ouais. Et tu me disais aussi, en plus, là où tu es, y compris dans ce groupe, et peut-être même parce que c'est un grand groupe, tu as trouvé une sorte d'équilibre qui te permet de mettre à égale distance, enfin pas égale distance, mais qui te permet à la fois de bosser, mais aussi de faire de la musique, de faire de la radio à Radio U, de militer au sein de l'association Survie, t'occuper de ta fille, etc. Donc ça veut dire que tu, au sein d'une grosse boîte qui est management, toi tu as trouvé une marge d'autonomie. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus là-dessus? Comment, au sein d'un grand groupe qui vise la rentabilité, comment toi, travailleur exécutant, tu y trouves ton autonomie et la possibilité de pas trop perdre du côté de ta vie personnelle?
Paradoxalement, en fait, le management exercé par ce grand groupe fait que nous, au niveau local, dans notre petit dépôt à Saint-Renan, il y a des moments où, en fait, l'activité, elle est soit très tranquille, soit très, très tranquille. Donc, il y a des semaines où moi, en tant que porteur-chauffeur, je ne vais pas travailler quelques après-midi et je suis quand même payé 35 heures. Ou sinon, il y a des semaines quand je suis d'astreinte, c'est-à-dire quand je suis ambulancier
Oui, pour aller chercher les cadavres.
chercher les mœurs. Donc, je suis à 35 heures, je suis dans mon dépôt. Donc là, je suis vraiment 35 heures. En fait, il ne se passe rien. Et en fait, comme le management est quand même éloigné, puisque
Et tu disais qu'il est à
je te
Saint-Malo, les
disais,
plannings se
il y
font à
a
Saint-Malo. Ouais.
le centre de planification qui décide de nos plannings et se trouve à Saint-Malo. En fait, tous les responsables de notre secteur armorique sont à Saint-Malo, voire à Rennes. Donc, en fait, ils se déplacent, ils viennent de temps en temps, mais rarement. Donc, en fait, on n'est pas emmerdé, en fait, par tout le côté hiérarchique des petits chefs. Ils sont pas là, en fait.
Et donc finalement, une optimisation du gestionnaire qui regroupe, qui fait des plannings à Saint-Malo pour Brest, ça semble hallucinant, mais ça se fait beaucoup dans plein de secteurs.
Ouais. Je ne
Finalement,
savais pas.
il y a à l'ombre de ce système de contrôle qui se veut très élaboré, il y a des zones
Il y a
d'ombre
des zones
à
d'ombre
l'intérieur
et.
duquel les travailleurs peuvent vivre pas uniquement dans le rendement et le.
Exactement. Et moi, concrètement, en fait, je me retrouve en astreinte. Je sais que le mardi, après-midi, là, en fait, personne ne va me contrôler, va savoir où je suis, etc. Je rentre après manger, je mange avec les collègues et puis je rentre. Et voilà. Et en fait, je vais passer mon après-midi à aller jouer de la musique avec mon pote, ou à faire la lecture, ou à aller me promener. Et puis, je retourne au boulot le lendemain. Personne ne pourra rien me dire, ne saura même ce que j'ai fait, etc.
Oui, parce que tu assures de toute façon, quand il faut
Toute
assurer, tu es
façon,
là. Ouais.
j'assure que si je dois intervenir, il m'appelle, et voilà.
D'accord.
Et en fait, cet exemple-là, il se représente tous les 15 jours. J'ai au moins
D'accord.
une journée, 2 jours comme ça.
En fait, oui, mais c'est ça. Ouais, ça tient à une situation particulière,
C'est très
celle-là. Bon.
particulier, ouais.
On va finir sur. Puisque c'est un peu ta. Tout au long d'un parcours incroyable, tu as fini par choisir une espèce d'équilibre boulot alimentaire en même temps utile et autre activité, dont la musique. La musique, il y a des gens qui en vivent, bon, c'est pas facile, mais il y a des gens qui ont tout simplement qu'en font un petit complément, ils vont jouer dans un bar, ils ramassent 50 balles, etc. Toi, tu n'y penses même pas, moi ça me surprend parce que je connais plein de gens qui le font, moi-même je l'ai fait avec le théâtre. Pourquoi cette idée te vient pas d'essayer même de tendre une casquette ou de demander à un patron de bar, écoute, on vient jouer chez toi, tu nous files 100 balles, on va bouffer là, ce qui te permettrait de gagner un peu mieux parce que le métier que tu fais n'est pas si bien payé que ça,
Bon,
tu as une fille à
je suis
élever.
payé au SMIC. Après, bon,
Ouais, c'est
je
pas
m'en
beaucoup.
sors, hein, mais
Mais
non,
tu t'en sors parce que tu te débrouilles bien, mais c'est pas facile. Ouais, voilà, pourquoi ne pas essayer au moins à côté de faire un peu. À la fois la musique par plaisir, d'abord par plaisir, mais aussi peut-être à un moment commencer à arrondir les fins de mois, quoi.
J'ai jamais pensé parce que je sais pas, parce que. J'en avais pas forcément besoin, mais après là, bien sûr, en fait, j'ai fait des petits concerts déjà. Hein.
Ah ben un concert, ça se paye, non? Enfin, on paye l'entrée, donc on devrait
Non,
payer les
mais alors,
musiciens.
c'était plus des concerts comme ça dans la rue, lors d'événements festifs.
Ouais, mais il y a un organisateur qui a besoin de toi, même si c'est dans la rue.
Je m'en fouchais. Moi, pour l'instant, je m'en fichais, mais pourquoi pas? Tu me donnes l'idée, je vais me faire
Ah,
payer.
ok. Fais-toi payer.
Non, mais après, plus sérieusement, moi, la musique, la pratique de la musique et en tirer un peu de revenus, ça me dérange pas. Je
Non, mais
vais.
c'est juste
Je
quelque chose
vais.
qui pour toi n'est pas dans le modèle, finalement, c'est ça, hein? Si je comprends bien.
Mais ça va le devenir, peut-être. Parce
C'est ça,
que.
y a pas de mal à toucher de l'argent.
Non,
Enfin,
non, non.
et même au contraire, ça pourrait être quand un organisateur te paie, sonnant et trébuchant, il soigne mieux le travail des affiches, il
Ouais,
t'est
ouais,
mieux
ouais.
reçu. Enfin bon, voilà.
Bon, on verra si on n'en est pas là, mais pour l'instant, voilà.
Et si tu devais tirer un enseignement, mais là en quelques mots, parce qu'on arrive à la fin, à donner, avec tout ce parcours très très riche, mais quand même avec des cascades et puis des endroits où tu t'es ramassé, t'as rebondi à chaque fois. Peut-être la qualité, c'est de rebondir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à un jeune homme qui voudrait comme toi, qui n'a pas envie, j'en ai rencontré ici à Radio U, je les ai interviewés, qui n'ont pas envie de s'enfoncer, ils n'ont pas envie de travailler, ils ont envie de travailler, mais ils n'ont pas envie d'être dans un sillon toujours le même, etc. Ils veulent rester libres et ils envisagent un peu comme toi le boulot, un peu comme de temps en temps, moi c'est la saison du boulot, on va y aller, mais je n'ai pas envie d'être coincé là-dedans. Que dire à quelqu'un qui voudrait viser ça pour éviter qu'il se ramasse vraiment, quoi.
J'en sais rien, moi, je pense, vu mon parcours quand même assez chaotique, je ne sais pas si je suis bien placé pour donner des leçons comme ça.
Là où tu as été bon, tu as rebondi quand même.
Ouais, bien sûr, j'ai rebondi. Mais en fait, après, il faut relativiser ça. Moi, je viens d'un milieu qui m'a permis, en fait, quand même, de pouvoir prendre mon temps, de faire des études, etc., d'être soutenu. Et même quand j'étais dans la pire des galères, j'ai été soutenu.
Oui, donc, c'est ça. Ouais, t'es bien entouré, t'es bien formé.
Relativisons ça. J'ai envie de dire que le plus important dans la vie, c'est d'avoir un bon entourage, en fait, d'avoir des amitiés sincères, profondes, et avec qui on pourra construire des trucs. Et après, chacun fait son chemin dans ce monde qui est quand même bien dur, quoi, qui est compliqué. Oui. Donc, en plus, dans le monde du travail. Il est central, hein, encore aujourd'hui, le travail.
Oui,
est
oui.
Central pour s'épanouir, pour être autonome, etc. Mais personnellement, j'ai l'impression que c'est encore plus compliqué qu'avant, quoi. Donc, il faut trouver des chemins de traverse. Et pour moi, c'est qu'avec les amitiés sincères qu'on peut construire ça.
D'accord. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Nicolas.
Merci à toi.